Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, Claude Colgan?
Bon, alors vous voulez que je vous raconte mon observation dans sa totalité. Alors bon, c'est très simple, ça s'est passé le 1er mars 1985 à Chessy. C'est une petite commune qui se situe à côté de Montévrain et à 2 km de Lagny. Donc, ayant accompagné une personne dans cette commune de Chessy, je reprends la voiture et je me dirige sur Paris. Remontant la côte qui partait de la rue des Coulommières jusqu'au plateau de Chessy, arrivé à la place, je crois que c'est la place Saint-Nicolas, puisqu'il y a une église du même nom, j'aperçois à travers les arbres qui se trouvent sur la place, une lumière, une luminosité. Alors naturellement, comme j'étais passé là quelques minutes avant, je me suis inquiété de savoir s'il n'y avait pas un incendie. En longeant un bâtiment dont la lumière disparaît, et puisque cette lumière était cachée par le bâtiment, et je me retrouve au stop de la sortie centrale de Chessy, et là j'aperçois au loin, environ 200-250 mètres, cette lumière intense, très vive, et je m'aperçois à ce moment-là que la lumière avait une forme semi-sphérique, très intense, et je me pose un instant la question en me disant, mais peut-être qu'on pourrait, on tourne peut-être un film, parce que c'est vrai, ça correspondait un peu à ce genre d'intensité lumineuse. Mais très rapidement, je me rends compte que cette lumière en forme de demi-dôme était tout à fait anormale. Donc, j'hésitais, et en même temps me vient la pensée, je me dis, mais tout de même, il n'y aurait pas une soucoupe volante dans le champ. Et je décide d'aller voir, et de poursuivre ma route. Alors, je m'avance lentement, et je commence à entrer dans une atmosphère lumineuse. Et je continue, et au fur et à mesure que j'avance, cette lumière devient plus intense, plus lumineuse, et je dirais que l'atmosphère s'épaissit en lumière. Et j'avais l'impression d'être enfermé dans un tube de néon. Mais c'est une impression assez désagréable. Par contre, sur le côté de la route, sur le côté gauche, en allant vers Paris, l'herbe qui bordait le talus était blanche comme s'il avait neigé. Il était 3h du matin. Il n'y avait aucun réverbère, aucun lampadaire. Il n'y avait que cette lumière qui était plus puissante que les feux d'un stade. Je traverse donc finalement cette lumière. En arrivant à l'extrémité de ce demi-dôme de lumière, la blancheur de cette lumière se mélange à du verdâtre. Et immédiatement après, je me trouve dans une atmosphère totalement vert sombre, comme si j'étais enfermé dans une bouteille de verre, mais de couleur verte. Et je baisse la glace de la voiture, et je penche la tête à l'extérieur, et je regarde au-dessus pour voir s'il se passait quelque chose d'anormal. Et là, au-dessus de ma tête, il y avait 3 tronçons lumineux, bien séparés les uns des autres, et j'ai compris plus tard que je me trouvais dans un 4e tronçon au sol. J'avais donc 3 tronçons lumineux, en vert dégradé, allant du vert clair au vert sombre. Bien. Je dépasse ce tronçon lumineux vert, et je me trouve dans un autre aspect, où il y avait des points lumineux, minuscules comme des têtes d'épingle, dorés. Il y en avait absolument partout, très équidistants les uns des autres, et je me suis trouvé donc dans cette chose que je ne comprenais pas du tout. Avançant encore un peu, à ce moment-là, dans le champ, à 20-25 mètres de moi, c'est-à-dire très près du bord de la route, une flamme s'est allumée. Elle s'est allumée de droite à gauche, et je me suis dit, bon ben quand même, tu n'as pas rêvé, il y a bien du feu. Et il s'est produit un fait tout à fait extraordinaire. Dans le champ, la flamme que je venais d'apercevoir s'est déplacé, mais il y a eu d'abord un bruit de comme des sacs de gravats qu'on traîne à terre, quelque chose de lourd qui se traînait à terre, un choc, et puis l'ensemble s'est déplacé, c'est-à-dire la flamme, la rangée de flammes s'est déplacée vers le centre du champ, c'est-à-dire environ 100 mètres, parce que j'ai mesuré par la suite, le champ faisait environ 200 mètres sur 200 mètres. La flamme s'est déplacée vers le centre du champ en s'élevant, et en dessous est apparu un immense trapèze de couleur verte, trapèze équilatéral, les angles de base de 60 degrés, vert vif au centre, vert sombre, vert émeraude de chaque côté. Et ces flammes dans ces mollements, mais en même temps, il y avait, et ça c'est très paradoxal, un bruit de feu comme si une forêt entière de bois sec brûlait. Un crépitement, quelque chose d'intense. Et là, j'avoue que je n'étais pas très très rassuré. Je suis parti. Alors, le lendemain, j'ai rencontré la personne que j'ai accompagnée, et je n'ai pas voulu parler de ce que j'avais vu, mais c'est cette personne qui, la première, m'en a parlé en me disant « Oh, mais vous ne savez pas, juste après votre départ, 5 minutes, c'est une appréciation comme ça, 5 minutes après votre départ, je ne dirai pas que j'ai vu une soucoupe volante, mais au-dessus de mon pavillon, il est passé un disque qui était 10 fois grand comme la pleine lune. » Voilà, il n'y a pas eu plus que ça, mais il est bien évident que tout ceci n'est pas normal par rapport à ce qu'on connaît, c'est-à-dire aussi bien en phénomène météorologique qu'en technologie humaine. Mais en tout cas, c'est quand on a vu ce que j'ai vu, on ne peut pas manquer quand même d'être impressionné et de se poser des questions, parce que ça fait quand même 17 ans que je retourne le problème dans ma tête, dans tous les sens, et j'aimerais bien quand même avoir la solution avant de décéder. Si c'est un phénomène atmosphérique qu'on ne connaît pas, eh bien c'est très intéressant de savoir que ça existe. Si c'est une hypothèse extraterrestre ou des mondes parallèles ou autres, c'est encore évidemment intéressant et même extraordinaire. Et si c'est des expériences sur des armes nouvelles ou des nouveaux moyens de déplacement, mais pourquoi pas? Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi nous allons affaire. Voilà.
D'abord, c'était de ramasser des renseignements, des observations. Laissez parler le témoin, parce que ce qui est curieux dans ces genres d'observations, elles sont, pour ainsi dire, toutes différentes. Il y a des couleurs qui sont assez étonnantes, des soucoupes. Je raconte l'observation d'une voiture au Maroc qui est suivie par une soucoupe volante. Elles adorent ça, suivre les voitures. Bon. Et la voiture est éclairée violemment. Le conducteur, qui est ophtalmologiste, a le réflexe professionnel de regarder les yeux de sa femme. Aucune réaction dans les pupilles, aucune. Donc c'est une lumière qui n'est pas terrestre. Mais on ne sait pas ce que c'est. Alors les méthodes, pour ainsi dire, savez pourquoi les savants n'aiment pas tellement les savants, certains n'aiment pas étudier ces questions-là, c'est que un phénomène scientifique doit être reproductible. Mais la soucoupe volante, on ne sait pas sur qui elle tombe. Donc on ne peut pas refaire le phénomène, dire tiens, je vais dans ce coin-là, je vais voir des soucoupes volantes. Tous ceux qui ont voulu faire ça, les nuits d'observation, ils n'ont jamais rien vu. Je me souviens d'un jeune gars du Midi qui nous dit, nous on aime bien les nuits d'observation, parce que vous comprenez, on voit pas grand-chose, et ça permet de draguer. Alors, voyez les nuits d'observation, bon. Alors, mon mari s'est donc intéressé à ce problème en disant qu'il fallait respecter le témoin, noter tout ce qu'il avait dit, et c'est pour ça qu'on a publié toutes ces observations, mais la méthode, c'est un peu difficile à dire. Une méthode, ça va avec un phénomène reproductible, on passe au moment là, voir comme... Même, vous savez, il y a des gens qui étudient la foudre en boule en Auvergne. C'est très difficile à étudier, parce qu'à la foudre en boule, il faut être là.
Comment vous interprétez ou vous parleriez du phénomène boule de feu, Michael Lecomte?
Alors, le phénomène boule de feu, oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresse assez. On l'appelle en général, enfin, je sais pas si c'est, il y a deux sortes de choses. Hein. Il y a des boules de feu assez grandes, comme un témoin m'a raconté il y a pas très longtemps, une affaire d'énormes boules qui sont descendues très doucement en direction de la Terre devant le Mont Saint-Michel. Les journaux apparemment n'en ont pas parlé parce que j'ai lancé un appel immédiatement sur Internet. Dans des mailing lists spécialisés, personne n'avait entendu parler de ça. Bon, maintenant, vous voulez peut-être parler de ce qu'on appelle la foudre en boule. Oui. Alors ça, j'ai moi-même été confronté. J'ai interviewé deux jeunes filles qui avaient connu un cas tout à fait passionnant. C'était donc deux jeunes filles à Bar-le-Duc, deux sœurs, qui allaient s'endormir, et la lumière était éteinte dans leur chambre, puis... Il y en a une qui a entendu l'autre dire « Tu vois, toi ?» L'autre a dit « Quoi ? La lumière ?» Oui. Il y avait, à l'endroit de la cheminée, quelque chose de lumineux. Elles ont réalisé que c'était à travers les pierres, comment dire, entre deux pierres, qu'on voyait quelque chose de lumineux. Cette cheminée était abandonnée, enfin ne fonctionnait plus depuis très très longtemps. Alors à ce moment-là, je me demandais ce que c'était. Il y en a une qui a dit, mais ça vient de la cheminée. Elles ont allumé la lumière, et une des sœurs, avec beaucoup de difficulté, a soulevé le rideau métallique. Et puis, elle a passé sa tête pour voir ce qui se passait. Et elle a dit, oui, c'est dans la cheminée. Qu'est-ce que tu vois ? Ben, je vois une boule. Je vois une boule lumineuse. Et ça descend. Et là, elle a retiré sa tête. Et elles ont vu donc cette boule descendre tout doucement, s'opposer dans l'âtre. À ce moment-là, ça les a dépassées. Elles ont commencé à être un peu paniquées. Elles sont allées chercher leurs parents. Et les parents sont arrivés dans la chambre. Et il y avait une pincette qui était restée là depuis longtemps pour attraper les bouts de bois. Et la maman a pris la pincette et a cogné sur cette boule. Et ça a rendu le bruit ou du verre ou du plastique, enfin, de quelque chose de tout à fait solide. Si on veut, ça a fait tac-tac. Et à un moment donné, là où ça commence à devenir vraiment très intéressant, c'est que la mère a donné un petit coup un peu trop fort, et la boule, cette chose s'est brisée. Et là, ils se sont aperçus que c'était vide, c'était une coquille lumineuse. Et les morceaux se sont mis à se rétrécir petit à petit jusqu'au moment où il n'a resté plus rien du tout. Voilà, ça c'est un cas assez unique d'après ce que je sais de foudre en boule qui m'a assez intéressé. Et les scientifiques sont tout à fait perdus devant cette chose-là. Je suis entré en rapport avec quelques-uns et les plus... comment dire... ceux qui sont arrivés le plus loin d'entre eux reconnaissent ne rien y comprendre. Elles font partie du phénomène OVNI. Hein. Ce sont des objets volants non identifiés. Quoi.
20 août 1977.
Bonsoir. La nouvelle expérience spatiale américaine qui promet d'être passionnante, car elle entre un peu, il faut le dire, dans le domaine de la science-fiction. Cette expérience doit commencer avec succès cet après-midi avec le lancement réussi à Cap Kennedy de Voyager 2, une sonde spatiale qui a mis le cap aussitôt vers la planète Jupiter. Une deuxième sonde spatiale baptisée Voyager 1 sera lancée le mois prochain. But de la mission, une meilleure connaissance de notre système solaire et peut-être, je dis bien peut-être, un contact avec des extraterrestres, si extraterrestres il y a, bien entendu. Les deux engins américains emportent pour cela dans leur flanc 6 ordinateurs, 3 générateurs nucléaires, de nombreux instruments scientifiques et bien entendu des caméras de télévision permettant de transmettre des photos des lointaines voisines de la Terre. De quoi faire rêver en vérité. Mais ce n'est pas tout. Il y a à bord plusieurs enregistrements, dont un message du président des États-Unis, M. Jimmy Carter, et un message du secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim. Il y a aussi les multiples sons, les multiples bruits de la Terre, comme le cri d'un nouveau-né, des chants d'oiseaux, le bruit de la pluie, et même un poème de Baudelaire. Toute une foule de sons divers qui seront largement diffusés dans l'espace, mais écoutez plutôt.
On s'aperçoit maintenant qu'il y a des observations, on remonte en fait à l'Antiquité, si on veut, hein, avec des observations tout à fait significatives Au Moyen-Âge, à peu près toutes les époques.
En Moyen-Âge, par exemple, qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on écrivait, puisqu'on écrivait essentiellement?
Eh bien, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui d'un monastère en plein Moyen-Âge où les moines ont vu passer un espèce d'engin qui les a stupéfaits. Enfin, ils ont interprété ça, bien entendu, comme un phénomène miraculeux. Bon, un autre exemple très célèbre, c'est celui d'observations qui ont eu lieu au 16e, 17e siècle, en Suisse, par exemple, au-dessus de la ville de Zurich, de Bâle, je crois. Il y a même eu des dessins de fait où on a vu presque des batailles d'engins célestes. C'est extraordinaire, en fait. Mais bon, là, l'époque moderne commence donc en 1947 avec une première vague de ce qu'on a appelé à l'époque des soucoupes volantes qui commence à être médiatisé avec l'observation de Kenneth Arnold, un homme d'affaires américain sur la côte ouest des États-Unis, qui a passé 9 engins tout à fait étonnants. Il a vu de très loin, mais c'était un très bon observateur. Il a pu décrire cela avec précision. C'était une première observation qui a été suivie d'autres immédiatement après, notamment de deux pilotes d'aviation qui ont vu pratiquement des choses tout à fait équivalentes. Ensuite, il y a eu de nombreuses autres vagues et ça dure depuis et ça continue encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui, alors nous parlons, beaucoup d'observations dans le monde entier et souvent d'engins de plus grande taille qu'à l'époque. Donc on a même l'impression que ça se renforce actuellement et on en parle beaucoup dans le monde entier.